Voilà, je vous invite à lire deux textes dans le Nouveau Testament. Un de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, et le deuxième de Jacques. Matthieu, chapitre 7. Et je vous invite à lire à partir du verset 21. Jusqu'au verset 27, Matthieu 7. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le deuxième texte, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 1. Et nous lirons les versets 22 à 25, l'épître de Jacques. Premier chapitre, verset 22. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Nous avons souvent entendu cette phrase et en particulier de la bouche des politiques. Et d'ailleurs, elle vient des politiques. On ne sait pas vraiment de qui elle a été, qui l'avait prononcée pour la première fois, mais il est certain qu'elle vient des politiques. Il est vrai que par moments, il est difficile de tenir sa promesse, de tenir ses paroles. Car entre le temps de faire la promesse et le temps de la réaliser, il y a souvent des éléments nouveaux qui échappent complètement au contrôle, à la direction de ceux qui prennent ces promesses. Et de ce fait, il devient par moments impossible de les tenir. Néanmoins, souvent, cette phrase que j'ai prononcée tout au début sert à justifier plutôt la non-tenue des promesses qui auraient pu, mais qui auraient dû tout simplement être tenues. Et pour se justifier, certains donc se permettent de dire « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission politique sur France 2, des paroles et des actes. Et dans cette émission, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne se souviennent plus de cette émission, on invite un homme politique et on essaye de confronter ses promesses quelques années, quelques mois auparavant, avec ce qu'il a fait ou ce qu'il ne l'a pas fait. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous, avec nous, non pas des paroles et des actes, mais des paroles aux actes. C'est l'enseignement qui ressort très clairement dans ces deux passages que nous venons de lire de Nouveau Testament. D'abord de la parole de l'enseignement de Jésus dans ces paroles que nous venons de lire et de Jacques. Tous les deux nous disent très clairement qu'il faut passer des paroles aux actes. Il ne faut pas se contenter simplement de beaux discours, des discours bien construits, bien faits, mais il faut les traduire concrètement. Et cette exigence de passer des paroles aux actes n'est pas simplement destinée aux responsables, aux dirigeants de l'Église, mais à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient que Jésus est leur Seigneur, à tous ceux qui simplement appellent Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Et si cette exigence est donnée à tous les croyants, à plus forte raison, bien entendu, pour les responsables, et le Nouveau Testament met l'accent tout spécialement sur la responsabilité des dirigeants et des responsables d'Église pour qu'ils soient des exemples concrets, des exemples qui essayent avec la grâce de Dieu de mettre en pratique leur enseignement et qui ne se contentent pas simplement d'enseigner et de ne pas mettre en pratique avec bien sûr toujours l'aide du Seigneur et de sa grâce. La responsable d'Église, d'ailleurs dans n'importe quelle activité, je n'entends pas simplement les pasteurs, même si je me sens le premier visé dans cette affaire, les responsables d'Église ne peuvent pas dire simplement « faites ce que nous disons et pas ce que nous faisons ». Peut-être certains politiques peuvent se permettre ce genre de langage, et même, j'ai entendu d'autres responsables religieux des autres religions disent cela dans mon enfance. « Ne faites pas ce que nous faisons, mais faites ce que nous disons », disait-il. Ce langage ne peut pas être tenu par des responsables d'Église. Nous ne pouvons pas tenir ce genre de langage. Des écarts entre ce que nous enseignons et ce que nous vivons, ce que nous faisons, peuvent nous mettre réellement en difficulté, et la Bible nous invite à les réduire aussi, à les réduire d'une manière aussi forte que possible. Pourquoi maintenant cette exigence, aussi bien pour les responsables que pour tous les croyants, pourquoi cette exigence de passer des paroles aux actes nous est donnée et donnée aux chrétiens, qu'ils soient responsables ou pas? Quel est l'objectif? Quel est le but de passer des paroles aux actes? Est-ce que c'est simplement pour nous embêter? Je vous propose quelques objectifs tirés justement de ces deux lectures que nous venons de faire. Le premier objectif, poursuivi par l'effort de passer des paroles aux actes, c'est ce n'est pas moins que notre salut lui-même. Jésus dit à ses disciples, ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dénonce ici le fait de connaître Dieu simplement verbalement, « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Il invite à une connaissance réelle. Une connaissance verbale de Dieu ne suffit pas. Il faut connaître Dieu réellement, et c'est une connaissance en esprit et en vérité qui conduit inévitablement, systématiquement, j'ose dire automatiquement, entre guillemets, à des actes qui expriment concrètement cette connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de professer notre foi, de dire que nous croyons en Dieu ou que nous écoutons la parole de Dieu, mais il faut lui obéir. Et c'est cela ce que le Seigneur nous demande ici. Il faut lui obéir d'une manière active et de le faire concrètement. Deux critères montrent que nous connaissons réellement le Seigneur évoqué par Jésus dans les paroles que nous venons de lire. D'abord, l'obéissance à la parole de Dieu et la relation avec le Seigneur. Aucune activité religieuse ne peut se soustraire à ces deux critères. Il est question de l'exorcisme, il est question des miracles, des dons spirituels, et toutes ces activités-là ne peuvent pas nous dispenser de l'obéissance à la parole de Dieu, et ils ne peuvent pas nous dispenser aussi d'une relation personnelle avec le Seigneur. Nous pouvons rajouter à ce qui est évoqué dans ce passage aussi, que pour nous qui vivons dans un pays de tradition chrétienne, rajouter que le fait de grandir dans une tradition chrétienne, le fait de grandir dans une famille chrétienne, ne fait pas de nous des enfants de Dieu, n'est pas suffisant pour être au bénéfice de ce salut que Jésus offre ici généreusement à tous ceux qui se tournent vers lui. Le fait d'avoir des parents chrétiens ne fait pas de nous des enfants de Dieu au bénéfice de ce salut éternel que le Seigneur nous offre. Le fait même d'aller à l'église, même l'église de tabernacle, ne fait pas de nous des héritiers du royaume de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la relation avec le Seigneur Jésus que nous avons, que nous développons jour après jour, qui nous permettent de connaître réellement Dieu Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il faut ajouter aussi pour nous qui sommes engagés dans l'Église, dans des œuvres, qu'aucune œuvre, aucun service ne doit nous soustraire à l'obéissance de la parole de Dieu et à la relation avec lui. Nous ne pouvons pas dire « je suis tellement pris par mon engagement à l'Église, le temps qui me reste est tellement pris par l'Église que je n'ai plus le temps d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur et de méditer sa parole ». Nous pouvons dire au Seigneur, n'avons-nous pas assuré l'instruction religieuse de l'Église? Encore n'avons-nous pas visité de telle ou telle personne dans le besoin? N'avons-nous pas assuré le service auprès des personnes dans le besoin, démunies? Tous ces services sont certes utiles, sont très précieux, appréciés, j'espère toujours appréciés aussi à leur juste valeur. Et en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit très clairement que Dieu est juste. Il nous rassure que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier notre service, le zèle, l'amour que nous démontrons envers le Seigneur, en mettant au service des uns et des autres. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit très clairement. Mais ces œuvres, ces services, ce ne sont pas ces œuvres qui peuvent montrer, qui prouvent notre connaissance de Seigneur, bien qu'elles soient, ces œuvres peuvent être une expression de notre connaissance de Seigneur, mais elles ne prouvent pas notre connaissance de Seigneur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la relation personnelle avec le Seigneur, c'est cela qui montre que nous connaissons réellement le Seigneur. Et sans ces deux fondements, nous avons beau faire des œuvres religieuses, aussi belles, aussi utiles soient-elles pour l'Église comme pour la société, nous ne pouvons prétendre à un accueil favorable de la part de notre Seigneur. Il y a bien des religions qui exigent de leurs adeptes beaucoup d'œuvres religieuses. Certaines exigent de prier 5 fois par jour, d'autres 3 fois par jour, des mois tout entiers de jeûne, de jeûne, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant que le salut leur est assuré et l'entrée dans le royaume leur est garantie. Reconnaître Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous conduit naturellement à l'obéissance de sa parole. Le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, grâce aux Écritures entre autres, que Jésus est Seigneur et Sauveur, crée en nous aussi le désir de vouloir servir le Seigneur, de vouloir obéir à sa parole, de l'aimer. Et aimer quelqu'un, c'est obéir à sa parole et à sa pensée. L'Esprit de Dieu crée en nous, en effet, la soif de connaître notre Dieu, de le connaître personnellement, le désir d'aller encore plus loin dans une relation personnelle, intime, partout, jour après jour. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons, en effet, appeler Dieu notre Père. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais au contraire, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, avec lequel nous pouvons appeler notre Dieu, notre Père. Et tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, peuvent en effet compter sur l'assistance du Saint-Esprit pour obéir à la parole de Dieu et pour développer cette relation personnelle avec le Seigneur. La vraie foi en Jésus conduit donc à l'obéissance à sa parole et conduit à une relation personnelle avec notre Père céleste. La vraie foi ne se contente pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais conduit à une obéissance concrète à la parole de notre Seigneur et à une connaissance réelle de notre Seigneur. C'est là le salut. Connaître Dieu, comme Jésus l'a dit dans sa prière au Jean 17, et connaître celui qui l'a envoyé. Le deuxième objectif qu'on peut tirer de ces passages, en passant des paroles aux actes, conduit à bâtir simplement sur le roc, à bâtir sur quelque chose de solide. Celui qui met la parole de Dieu en pratique bâtit sa maison, sa vie tout entière, sur un fondement solide que rien ni personne ne pourra venir faire tomber. Et l'exemple de ces deux bâtisseurs montre bien que la traduction ou la non-traduction de la parole de Dieu par des actes peut avoir une réelle différence. Traduire peut avoir des conséquences très positives. Ne pas traduire la parole de Dieu par des actes peut avoir des conséquences désastreuses. Certes, ces conséquences ne se manifestent pas forcément dans le présent, le jour J, mais face à l'adversité, face à l'opposition, elles peuvent être très dévastatrices pour ceux qui ne se contentent uniquement d'écouter la parole de Dieu et de continuer à construire des châteaux sur le sable, c'est-à-dire sans les mettre en pratique. Tant que le vent, la tempête n'ont pas frappé les deux maisons, celles construites aussi bien sur le roc que sur le sable, sont tout à fait pareilles, sont semblables, rien ne les distingue. On pourrait même penser peut-être souvent que celles construites sur le sable peut-être plus peuvent frapper le regard davantage. Mais face à l'adversité, face à l'opposition, la maison construite sur le roc tiendra, mais celle construite sur le sable s'effondrera. Et Jean Calvin écrit, lorsqu'il commente ces versets de l'évangile de Matthieu, il dit « La vraie crainte de Dieu ne peut être distinguée de sa contrefaçon. » Donc la contrefaçon, vous savez, il n'y a pas que des contrefaçons des objets, mais aussi y compris des choses que nous vivons. « La vraie crainte de Dieu ne peut être distinguée de sa contrefaçon que lorsque tout cela vient à l'examen. » C'est-à-dire lorsque l'opposition frappe, lorsque la résistance est là. C'est là que nous voyons vraiment si nous construisons sur du roc ou du sable. Nous devons veiller à notre manière de construire, à notre manière de bâtir. Nous ne pouvons pas travailler seulement l'aspect extérieur pour montrer une belle façade, une façade qui brille, mais sans réel fondement, sans aucune solidité. De même, nous devons faire attention de ne pas nous laisser séduire, tromper par toutes ces façades belles et qui brillent, y compris dans nos milieux chrétiens. Mais nous devons veiller à notre regard. Jésus nous invite ici à mettre concrètement la parole entendue de sa part et à la manifester par des actes concrets dans notre vie. Bâtir une vie, une maison qui va durer, qui va résister contre toute forme d'opposition. Et franchement, ça ne manque pas dans notre monde. Passer des paroles aux actes nous permet aussi de rester lucides et de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. C'est le troisième objectif que je veux mettre devant nous ce matin. Et cet objectif, c'est Jacques qui nous le souligne dans son texte. La parole de Dieu ne doit pas rester lettre morte dans notre vie de croyant, mais elle doit être vécue, elle doit être incarnée. C'est cette parole qui doit se manifester dans notre vie quotidienne. Autrement, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité de l'Évangile, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment en nous. Jacques nous invite à devenir des réalisateurs, des pratiquants, des faiseurs de la parole de Dieu. Et il nous avertit sur danger d'être des auditeurs oublieux à qui la parole de Dieu entendue, reçue finalement, ne sert pas vraiment à grand-chose. Enfin, un dernier objectif que je veux mentionner, l'objectif de passer des paroles aux actes, c'est de devenir heureux, bienheureux. Celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui la pratique, est qualifié, dans le texte de Jacques, par, au verset 25, par d'hommes ou de femmes heureux. Pour un observateur extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, la parole de Dieu peut paraître comme quelque chose de restreignant, quelque chose de contraignant, quelque chose de privatif, quelque chose qui nous priverait de la joie, du bonheur. Et pourtant, ici l'apôtre Jacques déclare au contraire, il dit clairement que le vrai bonheur, la vraie joie se trouve dans la mise en pratique de la loi parfaite de Dieu, de la parole de Dieu, de celui qui l'a mis en pratique. En d'autres termes, pour la Bible, un homme heureux, une femme heureuse, est celui qui vit dans l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ce que Jacques nous déclare ici? Car nous savons que obéir, en effet, à la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas toujours simple, et cela pour plusieurs raisons. Par exemple, le péché qui frappe à notre porte, et c'est d'ailleurs la Bible qui le dit, Genèse 4, le péché frappe à notre porte tous les jours, pour ne pas dire tous les instants de la vie. Il y a aussi nos limites, les limites humaines auxquelles nous faisons face, ces limites qui nous font toujours parfois, enfin j'espère parfois, faire ce que nous ne voulons pas faire et ne pas, et nous empêchent de faire ce que nous voulons faire. Et enfin, bien entendu, il y a la paresse spirituelle qui nous guette régulièrement pour ne pas veiller dans la prière et pour ne pas tomber dans la tentation. Il y a tellement de raisons donc qui font que obéir à la parole de Dieu peut devenir compliqué, peut tout simplement exiger de nous un effort réel. Obéir à la parole de Dieu nous engage en effet, nous engage à mettre nos efforts en œuvre, nos ressources, sous la direction bien entendu de l'Esprit de Dieu, mais nous devons mettre de l'effort. Passer de la parole aux actes exige en effet de l'énergie, exige de l'effort, de la consécration et même parfois de la violence et la violence contre soi-même pour pouvoir y parvenir. Mais il faut noter que l'effort n'est pas en contradiction avec le bonheur et la joie, le vrai bonheur en tout cas. Le bonheur, ce n'est pas de ne rien faire et d'avoir tout sur un plateau. Le bonheur, c'est aussi de faire les efforts et de parvenir à ses objectifs. Plus que nous mettons d'efforts pour atteindre notre objectif, plus que notre bonheur est grand. Nous devons faire donc attention à la mentalité ambiante qui veut nous faire croire que le bonheur consiste à ce qu'on peut avoir en toute facilité, sans aucun effort. Le goût de l'effort doit être mis en valeur, me semble-t-il, aussi dans l'Église. L'Évangile ne l'enseigne, car c'est une vertu aussi de la Bible. Si Dieu considérait que le bonheur de l'homme est de manger et de boire sans faire vraiment d'efforts et vivre selon ses penchants naturels, pervertis bien entendu par le péché, il aurait été certainement le premier à nous encourager à aller dans cette direction-là. Nous disons, allez-y, comme les Grecs autrefois, mangez, buvez, demain vous mourrez. Mais le Seigneur sait qu'une vie dans la désobéissance à sa parole est une vie qui n'est pas orientée par sa parole, c'est une vie qui court simplement à sa perte, c'est une vie malgré toutes les facettes, malgré toutes les apparences, c'est une vie malheureuse d'après l'Évangile. Et voilà pourquoi le livre des psaumes commence par ce premier psaume, le premier psaume où il est dit la première chose, le premier mot qui est employé, c'est heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas d'après le conseil des méchants, qui ne se tient pas sur la route des pécheurs et qui ne s'assied pas dans le groupe des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Voilà pourquoi le livre qui oriente le culte d'Israël autrefois commence par cette indication d'un homme heureux selon le Seigneur et celui qui vit selon la loi du Seigneur. Les incroyants, ceux qui ne croient pas, pensent que c'est une corvée de se plier aux lois et aux exigences du Seigneur. Mais le croyant, celui qui a fait l'expérience de l'intérieur, sait bien que le vrai bonheur, celui qui demeure, celui qui est dur, se rencontre dans une vie vraiment selon la parole de notre Seigneur. Voilà pourquoi je veux, chers frères et sœurs aussi, nous qui sommes appelés à montrer notre foi par des actes et concrets qui expriment la volonté révélée par notre Dieu, j'aimerais nous encourager à vivre cela comme un vrai bonheur, une réelle joie, un vrai privilège, et non pas comme une contrainte, comme un fardeau écrasant, mais bien au contraire, comme un plaisir qui nécessite et qui demandera encore et encore de l'effort. Mais cela, comme je viens de le dire, mettre l'effort n'est pas contradictoire avec le bonheur, bien au contraire, me semble-t-il. L'enjeu n'est pas dans le fait de dire des choses agréables pour nous chrétiens, le fait de dire les choses respectueuses, les choses orthodoxes, même les choses très enthousiasmantes pour le Seigneur. L'enjeu n'est pas non plus de prendre connaissance simplement de l'enseignement de la Bible, ce que la Bible dit, c'est très bien de le savoir. Mais ce n'est pas suffisant. L'enjeu est de pouvoir vivre, de pouvoir accepter vraiment, laisser le Seigneur être notre Seigneur, celui que nous appelons Seigneur et Maître, être notre Seigneur. Et comment il peut le manifester? Par sa parole qu'il nous a laissée, nous invitons à la recevoir et à la vivre. En tant que chrétien, il me semble que nous avons un privilège énorme, énorme, mais ce privilège est accompagné par une grande responsabilité. Vivre de ce que nous savons de la parole de Dieu et faire ce que nous disons de la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais nous savons tellement de choses sur la parole de Dieu et nous sommes tellement loin dans ce que nous faisons. Comment faire? Qu'est-ce qui est suffisant pour vraiment faire tout cela? Personne. Seule la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, comme l'écrit l'apôtre Paul. Et c'est elle qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans l'épître à Tite que l'apôtre Paul écrit cela au chapitre 2. Nous ne sommes pas orphelins, le Seigneur nous a laissé son Esprit Saint pour nous accompagner, pour nous rendre dignes de la vie, pour vivre d'une manière digne de notre vocation, de cette vocation qu'il nous a adressée. Nous pouvons vraiment compter sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, au fond de nous-mêmes, dans notre vie, et le laisser transformer, nous aider jour après jour à aller de progrès en progrès dans l'écoute, mais une écoute de sa parole, une écoute active, c'est-à-dire une écoute qui se traduit naturellement par des actes concrets. Voici quelques domaines pratiques que j'aimerais vous proposer, dans lesquels nous pouvons laisser passer de la parole aux actes, de la parole aux actes. D'abord, dans notre piété personnelle. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, passer notre temps à nous réclamer de notre Seigneur Jésus-Christ si nous ne vivons pas comme lui a vécu, c'est-à-dire si nous ne suivons pas l'exemple qu'il nous a laissé. Il nous a laissé un bel exemple, un exemple extraordinaire, un exemple qui est là pour nous tirer toujours de l'avant. L'Évangile nous dit que Jésus est pleinement homme. Il a été tenté à tous égards, comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus est le premier à mettre en pratique la parole de Dieu parfaitement, sans commettre de péché. Personne n'a pu le convaincre de péché. Il a mis la parole de Dieu dans sa vie de piété personnelle. Et il s'est trouvé du temps pour s'isoler, pour prier, pour méditer la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et pourtant, les foules étaient toujours là. La demande était toujours là. On le sollicitait toujours. Mais il a su dire, à un moment ou à un autre, il y a des priorités, il y a le temps de l'isolement, le temps que je dois prendre avec mon Père. Tout comme notre Seigneur, nous devons, me semble-t-il, nous aussi, développer une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, de lecture de la parole de Dieu. Et souvent, la place que les écrans, je ne parle pas dans le cadre professionnel, mais que les écrans en dehors du cadre professionnel prennent dans notre vie de nos jours, peut nous rendre vraiment cette tâche difficile. Parfois, bon, les séries, la télé, etc., on enchaîne des choses, on se retrouve que la journée est déjà passée sans avoir pris au moins une minute pour dire « Ah, Seigneur, si, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» ou simplement prendre sa Bible, la lire. Mais ceci dit, si nous sommes fans des écrans, pourquoi pas? Il y a tellement de Bibles, il y a tellement de commentaires, il y a tellement de méditations que nous pouvons lire sur des écrans, et bien profitons-en. Voilà, le tout, c'est de trouver un temps. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes plus pris par la demande que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a su trouver du temps pour s'isoler avec son Père. Il me semble, nous aussi, nous devons trouver aussi le temps de nous isoler d'une manière ou d'une autre avec notre Seigneur, développer notre relation avec lui et prendre le temps aussi de prier, avoir la sagesse pour vaquer à la prière comme l'apôtre Pierre nous exhorte dans son épître. Un autre domaine aussi de la piété personnelle dans lequel Jésus demeure un exemple à suivre est celui de l'épreuve, de la tentation. Face à la tentation, Jésus a résisté jusqu'au bout. Il a résisté malgré la violence de la tentation. Et les trois tentations qui nous sont rapportées dans les évangiles, l'évangile de Matthieu par exemple, au chapitre 4, au Luc, nous montrent vraiment la violence de la tentation. Et Jésus a su tenir bon, a su tenir bon. Face à l'épreuve, Jésus a supporté, Jésus a mis sa confiance dans son Père jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Et il a su résister, voilà, jusqu'à la croix. C'est une épreuve bien exigeante, qui dépasse de très loin, me semble-t-il, toutes les épreuves que nous pouvons vivre, même si je ne veux surtout pas minimiser les épreuves que les uns ou les autres peuvent vivre encore aujourd'hui. Mais il me semble, à la lumière de l'épreuve que Jésus a subie, a vécue, a supportée, l'épreuve de la croix, nos épreuves, nous pourrions relativiser un peu nos épreuves, même si celles-ci peuvent être très très exigeantes aussi. Passer des paroles aux actes dans notre témoignage personnel. Souvent, les gens autour de nous, les amis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les voisins, les collègues, franchement, n'entendent pas beaucoup ce que nous leur disons en parole. Mais par contre, ils sont très sensibles à ce que nous faisons, à ce que nous disons par notre comportement, par notre manière d'être. Et l'Évangile nous invite, là aussi, à la cohérence. Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous aidera à cette cohérence, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous aide aussi avec la volonté que nous mettons en œuvre, avec notre disposition. Si nous appelons l'aide du Seigneur chaque matin, chaque instant, en disant « Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains », le Seigneur nous aidera à l'être. Mais si, par contre, nous fermons toute porte à l'Esprit de Dieu, notre témoignage sera simplement médiocre et au lieu de faire venir les gens vers l'Évangile, de donner envie à ceux qui nous entourent de connaître un peu plus notre Seigneur Jésus-Christ, on va les faire simplement fuir. Troisième aide dans lequel nous pouvons aussi passer des paroles aux actes, c'est le service dans l'Église. Si le salut est une réponse en effet personnelle au Seigneur, la vie chrétienne est une vie communautaire. C'est une réalité communautaire. Nous ne pouvons pas vivre notre foi chrétienne comme un solitaire, comme si nous sommes seuls à vivre en estimant de toute manière que toutes les églises ont des défauts. Vous savez, il y a certains aussi, parfois, de nos frères et sœurs qui passent d'une église à l'autre, estimant à chaque fois que toutes les églises ont des défauts. Peut-être, c'est vrai. De toute manière, il n'y a que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux où il n'y aura aucun défaut. Mais tant que nous sommes ici, il y aura toujours quelques défauts ici ou là. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas vivre en solitaire notre vie chrétienne. Nous devons veiller, il me semble, sur ce point, d'autant plus que nous vivons dans une société individualiste et parfois la société peut avoir aussi des influences sur notre manière de vivre l'Évangile. L'Église n'est pas simplement un rassemblement de plusieurs individualistes, mais c'est une communion de frères et sœurs qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et qui pleurent avec ceux qui pleurent. Il y a une réelle communion fraternelle, il y a une vraie communauté. Christ, lorsqu'il est venu, c'est pour fonder une Église, et non pour fonder donc un peuple des frères et sœurs, et non pas simplement une association d'individualistes bien intentionnés. Là aussi, il me semble qu'il ne s'agit pas de savoir de bonnes et de grandes choses sur l'Église, mais de les vivre, la réalité de l'Église. Il convient de nous demander de temps en temps, est-ce que je prends ma place dans l'Église, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré? Est-ce que je suis à l'Église? Est-ce que je mets à la disposition de l'Église les dons que le Seigneur m'a donnés? Est-ce que je ne prive pas l'Église de ma présence? Est-ce que je ne prive pas l'Église de mes capacités, de mon service? Et ainsi de suite. Nous pouvons, il me semble, nous devons même nous poser ces questions pour vivre la réalité de l'Église. Bien sûr, il s'agit ici de faire pour chacun selon les dons qu'il nous a don, selon les dons que le Seigneur nous a donnés, selon nos possibilités. L'objectif, ce n'est pas de nous écraser. Mais en même temps, il me semble que parfois, nous pourrions nous laisser entraîner par une certaine paresse sans nous poser vraiment la question de la communion fraternelle, venir un dimanche et repartir sans vivre une réalité de l'Église et de la communion. Enfin, un dernier terrain, il me semble, où le besoin ne manque pas, et surtout ces derniers temps, c'est bien entendu notre monde, notre société. Certes, l'Évangile nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et dans ce monde, nous sommes appelés à briller dans ce monde pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la surface du Christ, écrit l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. C'est dans le monde que nous sommes appelés à être lumière et être sel. Et pour montrer notre lumière, la lumière de Christ, le sel de la terre, que nous sommes lumière du monde et sel de la terre, ce n'est pas par des beaux discours, mais par des actes concrets qui apportent et qui montrent réellement ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous nous rendre utiles, là aussi pour notre société, et permettre ainsi à plusieurs personnes d'être notre prochain, ou de nous rendre le prochain de toutes ces personnes que le Seigneur place sur notre route? Il me semble qu'à cette question, il y a plusieurs réponses, des réponses individuelles, mais aussi des réponses collectives que nous pouvons apporter à cette question. Bien sûr, il y a de se rendre utile pour la société. Il y a l'action publique, il y a l'humanitaire, il y a le social, il y a l'aide aux personnes dans le besoin, les personnes âgées, et ainsi de suite, tous ces domaines. Et j'aimerais attirer notre attention sur un domaine, ce que je viens d'évoquer, c'est quelque chose de régulier, mais un domaine tout à fait nouveau, c'est tout ce que nous entendons actuellement sur les migrants. Il me semble que nous ne devons pas être absents dans ce que nous pouvons faire, dans la limite de nos possibilités, dans la limite de nos moyens, mais aussi avec la prière, mais d'apporter notre contribution. Et ces gens qui fuient justement la fureur des islamistes d'un côté, ou parfois des dictateurs, peu importe, mais ils sont là, et nous pouvons, me semble-t-il, prendre notre responsabilité de voir ce que nous pouvons faire avec l'aide du Seigneur, en toute sagesse et discernement. N'ayons pas peur, me semble-t-il, n'ayons pas peur de prendre pleinement notre responsabilité sans plus, mais sans moins non plus. Voilà, chers frères et sœurs, passer de la parole aux actes, des paroles aux actes, n'est pas une option, me semble-t-il, dans la vie chrétienne. Mais elle fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Et justement, le manque de la manifestation concrète de la parole de Dieu, de l'obéissance à notre Seigneur, de suivre l'exemple de notre Seigneur, le manque de cette manifestation doit, me semble-t-il, nous conduire à réfléchir, à poser des questions devant le Seigneur, à prier si nous avons vraiment reçu le Seigneur comme il le veut, si nous n'avons pas loupé quelque chose qui peut être important pour notre foi chrétienne. Et si tel est le cas, il n'est jamais trop tard, en tous les cas pas encore trop tard, la grâce de Dieu est toujours là, et nous pouvons toujours nous tourner vers le Seigneur, lui qui sait pardonner les péchés confessés, lui qui sait intervenir au bon moment pour encore nous mettre sur son chemin, pour nous mettre sur sa voie. Et si nous reconnaissons justement que nous avons des efforts à faire et que peut-être nous n'avons pas eu assez de lucidité que nous aimerions avoir, le Seigneur est là pour nous accompagner par son esprit. Il est là pour nous accorder sa grâce, mais c'est à nous de faire appel à lui, c'est à nous de l'appeler et de le prier, de l'inviter à agir librement en nous et en toutes circonstances pour la gloire de son nom. Amen.